C'est une bonne question. Eh bien, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Bayomahou, il n'y a pas de différence. Sinon que le Olama Neshamot, c'est ce qui s'appelle aussi Tzoro Rahaim ou Tzar Rahaim, eh bien, c'est, si vous voulez, les Neshamot qui sont dans le Olama Neshamot attendent de revenir dans leur lame à ce niveau-là, leur lame en bas. Leur lame à Neshavot, c'est la réserve de Neshavot qui n'ont pas encore achevé l'histoire que le monde entier doit achever, leur lame en bas. C'est Yeshéné Afar de notre côté. À ce niveau-là, il n'y a plus de différence par rapport à notre problème. Plus besoin de la médiation du corps pour être. Bon, mais ça débouche sur d'autres sujets. Et n'oubliez pas qu'après le cours, il faudra manger et dire les fatamazes. On n'est pas déjà devenu désincarné. Oui. Et donc, voilà. Mais qu'il faut qu'il y ait la résurrection de mort. Pour arriver à la mort. Ça se veut dire ok. Bien, nous avons encore un quart d'heure. Oui. La conscience aiguë qui a eu un commencement. Si on prend au sérieux le fait qu'il y a un commencement, alors ça va de soi qu'il y a une fin. C'est un processus. Okay? Je veux dire la notion de création. Si on prend au sérieux le fait qu'il y a un commencement, alors ça mène vers une fin. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. C'est clair? Je vous ai répondu au niveau intellectuel. Mais je pourrais répondre d'une autre manière. Ça veut dire, je crois que les autres aussi ont pressentiment de cela, mais ils y ont renoncé. Alors votre question serait, pourquoi ils y ont renoncé? Parce que peut-être ils ne prennent pas vraiment au sérieux qu'il y a eu un commencement. Et je vais tout d'abord de vous montrer dans les terres, merci de vous reposer la question. Voilà, là je me réfère au mot Réchit lui-même. Et le mot de Réchit mène au mot de Chéri. C'est-à-dire, si je prends au sérieux Réchit, alors j'arrive à Chéri. Ça, c'est le commencement, ça, c'est le reste, ce qui restera à la fin des échafaudages. Okay? Vous comprenez? C'est la même lettre. C'est-à-dire, si je prends au sérieux que Bereshit, Bara Elokim, que je suis créé et que j'existe dans le temps, ça veut dire que ce temps me mène quelque part. C'est à quoi tu fais allusion dans ta question? Okay? Alors là, voilà. J'ai beaucoup réfléchi à ça au niveau théologique. Et, par exemple, le fait d'utiliser le mot création, le mot commencement, sans prendre ces termes au sérieux. Parler de Dieu, mais sans prendre au sérieux que ça veut dire le créateur, que je n'existe que parce qu'il m'a créé. Et faire allusion au commencement de façon extrêmement vague, floue, à l'origine. C'est-à-dire, au fond, c'est moi la référence, et puis le mafréard en arrière, je dis, donc il faudrait tant de temps potentiel pour rendre compte de moi, mais je ne pense pas vraiment qu'il y a un commencement. Vous suivez l'histoire de la bactérie? Bon. Et je crois qu'effectivement, les consciences capables de la foi d'un monde transfiguré, de l'espérance d'un monde transfiguré, qui ne prendrait pas au sérieux que ce monde a été créé, finalement renonce à cette espérance. Ça arrive à des après tout. Après tout, peut-être que le monde est éternel. Après tout, peut-être que les évolutionnistes ont raison. Après tout, parce que ça dure tellement longtemps et parce que on a perdu patience. Et donc je reviens au terme de la question, et pourquoi on risque de perdre patience? Ça ne veut pas dire que tout homme vivant n'a pas cette exigence d'un monde vrai. Donc tout ce qu'ils visent dans leur visée d'idéal ou d'utopie, c'est la vraie utopie qu'ils visent, c'est le vrai Dieu auquel ils se réfèrent. Mais cette crainte peut-être, ou incapacité de prendre au sérieux qu'il y a un commencement vraiment, qu'il est là, et donc que je dois rendre compte, la morale, c'est au fond ça qu'ils veulent. Bon, je vous parle de nouveau en hébreu. Okay. C'est une différence d'appétit.
Voilà.
Bon, je crois que là aussi, c'est notre manière d'être. Nous sommes très appétants, pas appétissants, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire, oui, effectivement, le juif, en tant qu'il est hébreu, a très faim. Il a envie d'un long Birkat Hamazon. Et ça se relie à la bénédiction de Jacob. Tout, parce que beaucoup, c'est rien.
Et alors, justement,
par rapport à tout ça, il y a un mouvement de Jacques qui s'est produit, c'est le bon parfum. Parce que sans doute, il permet d'être patient, c'est qu'on a un parfum de la chose. Exact. Et c'est pourquoi, au sacrifice, on a ajouté l'encens. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai repas, il faut un parfum. D'ailleurs, c'est une mitzvah, le Shabbat, de mettre des fleurs sur la table. Parfum dans le sens de pressentiment, c'est ça. Oui. Mais on n'en va pas. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, alors nous nous OK. Oui, bien sûr. Ça veut dire que parmi tous les candidats possibles à être l'homme authentique, c'est-à-dire le signe que c'est arrivé pour tout le monde, hein, par le biais de la communauté, ça je me relève à tout, hein. Et bien, parmi tous les candidats possibles, il y en a un qui est légitime vraiment. Je vous donne un exemple simple. Parmi tous les candidats à la royauté, et tous candidats légitimes en tant que candidats, il y en a un qui sera le roi légitime. Et alors, il sera loin, O-I-N-T. Hein. Mashiach, ça veut dire celui qui a obtenu l'onction, c'est-à-dire la légitimisation. C'est ça le Mashiach. Donc le Mashiach a une toute autre fonction que Christos en grec qui a donné le Messie des chrétiens. Okay. Alors dire que Christos c'est Mashiach, c'est traduire du grec en hébreu. Okay. Et c'est Christos en grec a une toute autre fonction. Okay. Et là, ça nous renvoie alors au niveau du 8e livre.
Qui est moindre?
Le prophète. C'est le prophète qui moindre le roi. Et vous savez qu'il y a deux cérémonies de l'onction. Celle du Melech HaMashiach et celle du Kohen HaMashiach. Ça, tout ça, on apprendra après. Donc nous attendons deux personnages simultanés. Un Melech légitime et un Kohen légitime. Alors le Navi légitime apparaît et rappelez-vous la fonction du prophète Samuel pour l'onction. Hein? Il avait deux possibilités. Ou bien oindre le roi réclamé par le peuple et qui s'appelait Shaoul. Vous entendez en hébreu Shaoul le demandé. Hein? Ou bien le préféré de Dieu qui s'appelait David. Il y a les deux possibilités. Alors faites bien attention, ne vous prenez pas pour Shaoul et ne vous prenez pas pour David. Hein? Parce que ça, c'est cette grave erreur qui consiste à mettre un individu à la place de la collectivité. C'est la destinée de la collectivité qui est en question, pas des individus. Très bien. Eh bien, c'est relié à ça. Bon. Alors, vous voyez, on a rendez-vous pour la fin du sixième millénaire. Eh bien, on n'est pas si loin que ça. Okay. Et vous voyez que le Maharal a eu raison. Enfin, l'histoire a donné raison au Maharal. Le Maharal, c'est plusieurs siècles. C'est-à-dire, les Juifs ont demandé, alors, il vient ou il vient pas? J'ai dit, attends, il vient à la fin. On aurait pu mériter depuis le commencement de la fin, mais il faut attendre la fin de la fin. qu'est-ce que c'est, de quelle ordre est ce mérite grand qu'il faudrait avoir pour. Ça, c'est du sionisme, on l'a appris.
Au dernier paragraphe du chapitre, c'est à la page Kouflamadé. Je vous montre dans vos textes, c'est donc cette page, la page 2, et ça commence avec Vekama. Pour résumer brièvement ce qui s'est passé hier matin, pas le soir, pour ceux qui n'étaient pas là, et nous sommes en train de citer une citation de la Gemara de Sanhedrin, selon laquelle le temps de l'histoire se divise en trois périodes de 2000 ans. Les premiers 2000 ans sont appelés Tohu, un temps de chaos, c'est le début, et ce n'est pas encore complètement organisé. Ensuite, le temps de Torah, 2000 ans, et ensuite 2000 ans de Yemot HaMashiach, les temps du Mashiach. Et le Maharal nous a donc expliqué pourquoi il est nécessaire de diviser chaque unité de temps en trois niveaux. Et donc ceci est rapporté à l'enseignement de la durée du temps de l'histoire. Et puis maintenant il va entrer un peu plus dans le contenu de l'analyse. Alors je commence tout de suite la lecture. J'espère que on peut démarrer. Vous n'avez pas de... Comment dire, de questions, de termes, d'imprécisions, de ce qui s'est passé hier matin. Ça va ? Asseyez-vous, parce que... Enfin, tiens. Alors, tu as une chaise ? Ça va. Bien, alors je continue la lecture. Veka Amar, et il nous a donc été dit... Chené à la fin Tohu, 2000 ans de chaos. Peut-être nous aurons l'occasion de préciser ce terme, ce n'est pas exactement chaos, il faudrait traduire Tohu Vabohu par le terme de chaos. Mais disons, Yotohe, ça veut dire encore pas précis, encore sous le choc de. Comment dire ça ? De ce vertige qui consiste à découvrir que l'on existe. C'est pas encore au point, c'est... un peu, vous avez un autre terme qui se rapproche beaucoup, c'est l'iotoae, avec aïn, un peu dans l'errance. Mais, je n'ai pas de terme à l'esprit, mais ça reviendra. Et désordre. Mais un désordre qui se dirige rapidement vers un ordre. Ça, c'est le deuxième moment. Parce que en tout début, c'est le stade où il n'y a encore pas ce dont on parle, la chose qui est visée, désignée. Et cela, c'est la définition même de tout début. Ici, le Maharal employé un terme segula qu'on traduit habituellement par privilège, mais ça veut dire la définition spécifique. Shein bo davar mamash. Il ne se répète pas, il ajoute. Une précision, c'est le mot de mamash, où ce dont on parle est là vraiment. C'est une sorte de préface, le début. Ve'amar, et ensuite le texte dit Shne alafim Torah, 2000 ans de Torah. Et ici, nous entendrons avec le mot de Torah la notion de révélation de la Torah. C'est le moment historique où la Torah est révélée. Ki azman ha'emtsa'i meyuchad la Torah. Parce que c'est le temps du milieu. Vous vous rappelez, nous avons donc trois périodes, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. C'est les 2000 ans du milieu. Il y avait Atrala, Emtsa'i, Sof. Alors, après le temps de Atrala, où tout est encore en préparation, en flou, en vague, arrive le temps de révélation de ce dont il s'agit. Et cela, c'est le temps du milieu, Emtsa'i. Meyuchad la Torah. Cela est particulier à ce que nous entendrons par Torah et révélation de la Torah. Ceci avait été étudié, nous dit le Maharal, dans un autre de ses livres qui a pour titre Gevurot Hashem. Vous y référez dans les derniers chapitres, ou Bekama Mekomot, et aussi dans beaucoup d'endroits de son enseignement. Mais il revient sur ce dont nous avons besoin quant à cette analyse pour notre problème. Mipene. Chez Aemtsaï et nos Geshem. Parce que, en toute réalité, pour toute réalité, de quelque ordre que ce soit, ce qui est milieu, je ne dirais pas au centre, mais c'est cela que cela veut dire, n'est pas matériel. Fikol Geshem, parce que tout ce qui est matériel, Yeshlo Rechakim, a des dimensions qui s'écartent. Je reviendrai sur cette analyse jusqu'à ce que l'idée soit éclaircie en français. Ça veut dire que toute réalité matérielle se trouvant dans l'espace, eh bien, tend à des extrémités, tend à des distances, à des éloignements. Si j'osais me référer au vocabulaire de Mizrahi hier soir, à des utopies. Okay? Non, vous n'étiez pas là. Et ce qu'il y a au milieu, eh bien, c'est un peu cette notion, j'emploierai une image mathématique, que le point n'a pas d'épaisseur, que le point n'a pas de dimension. Et que ce point du milieu de toute chose, où chaque chose étant son milieu, ce qu'elle est vraiment, parce que dans toutes les extrémités, dans toutes les dimensions, c'est relié à autre chose. Et si l'être est en question, eh bien, les dimensions vont vers le néant. C'est l'idée de diaspora, okay? Les extrémités. Vous rappelez tous les versets qui parlent du retour des extrémités, même si vous êtes aux extrémités du ciel, vous vous rappelez de ces versets. Les ktsavot, c'est-à-dire qu'une présence est elle-même dans un milieu central qui n'a pas d'épaisseur d'espace, et puis elle se perd dans ses extrémités. Et par conséquant, il est, disons, de la destinée de toute réalité matérielle de s'éloigner d'elle-même dans ses extrémités. Et elle n'est elle-même qu'en son centre, mais le centre vraiment n'a aucune épaisseur, ni dans l'espace, ni dans le temps, comme nous avons le mystère. Okay? Et donc le Emtsa'i, nous dit le Maharal, Eno Geshem. Je dirais, c'est une image, ou peut-être plus qu'une image, que c'est ce point mystérieux où l'éternité, j'allais dire, s'incarne, mais enfin disons, ce Makshim, comme nous dirions en hébreu, les Hakshim, devient réel, est relié au temps et à l'espace. Et ce point-là n'a aucune épaisseur. Ni temporel ni spatial. Donc le Emtsa'i vraiment, eh bien, n'est pas Gashmi, n'est pas de l'ordre de la réalité matérielle dans l'espace et le temps, mais c'est le point d'insertion entre la vérité et la réalité. Et donc à chaque niveau d'être, chaque niveau d'être est vraiment lui-même en son milieu, parce que toute extrémité le disperse, le reliant à autre chose. Mais s'il s'agit de l'être, le reliant au néant. C'est-à-dire, l'image de l'effort de rassemblement de l'être en lui-même est circulaire. Et peut-être il y a là l'indication que le temps réel, c'est-à-dire que l'espace réel est sphérique. Alors que l'image inverse est celui qui va du centre vers la périphérie, c'est la dispersion dans le sens étymologique. Je voudrais utiliser une image qui me revient d'une lecture d'un livre que j'ai pas lu d'ailleurs. Vous savez, ça se relie à toute cette espèce de dispersion, de vulgarisation de livres sur la Kabbale. Et j'ai entendu parler d'un livre d'un certain que je connais pas, Grad. Ça vous dit quelque chose? Bon. Alors on m'a cité de lui une image que je vais vous mettre au tableau et qui est très exacte. C'est tout simplement la différence de ce que va apparaître dans l'image du Magen David, et d'une part, et de la croix d'autre part, et plus encore de la croix gammée. Alors on va voir ça très rapidement, mais c'est exactement cette idée. D'ailleurs, vous voyez, le Magen David a finalement pour objectif d'unifier tout ce qui est multiple en haut, de l'unifier en bas. Et d'unifier en haut tout ce qui est multiple en bas. Et puis dans toutes les dimensions, et ici apparaît l'idée de l'effort d'un rassemblement vers le centre, d'une unification. C'est clair? Bon, et ceci est à l'indice 6. Alors que l'image opposée serait très exactement, à partir d'un centre, la dispersion. Et la dispersion la plus totale, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça se perd dans le néant extérieur. Et ce n'est sans doute pas par hasard qu'il y a eu conflit, comme vous le savez, entre ces deux symboles. écoutons.
Je referme la parenthèse.
Voilà, ça se relie un peu à ce que dit le Maharal ici. C'est-à-dire que chaque présence est elle-même en son milieu, et le milieu en tant que tel n'est pas dans la réalité matérielle, n'est pas de l'ordre de la réalité matérielle. Et par conséquent, c'est le temps du milieu qui est le temps de la révélation de la Torah. Nous allons voir maintenant la phrase suivante, qui est un peu plus difficile. Pardon ? Ben c'est juste le contraire. C'est, je dirais, enfin, peut-être le symbole du matérialisme par excellence. Mais j'étais surtout frappé de cela, c'est que dans l'image du Magen David, il y a l'effort de réunification, et nous verrons en particulier ce soir que c'est l'objectif de la messianité. Là où il y a plus c'est là où il y a plus d'unité que par cet effort de la messianité. Alors que l'opposé de la messianité, c'est la dispersion. C'est bon, tout ceci vous paraît, je suppose, cohérent minimum. Et il y a donc probablement et peut-être malheureusement deux manières d'être homme. Une qui a exigence de cette vacuité totale, et l'autre qui a au contraire exigence de l'unité réelle. Alors là, il y a sainteté, là, il y a le contraire, et impureté. Et qu'il était sans doute inévitable que ce conflit se symbolise un jour de cette manière. Bien, et vous voyez pourquoi c'est, et j'en parlerai un peu ce soir, ces symboles mixtes. Comment dire, syncrétiste, on dit. On voit des espèces de symboles, de bijoux, de je sais pas quoi, une croix et un Magen David, c'est absolument contradictoire. Je crois que c'est ça. Et non seulement la croix et le sang, en plus. Bon. Bien, et effectivement. Bien, alors je reprends donc la phrase du Maharal. Mipene she'aem tsai enogeshe. Ce qui est au milieu, et on peut aussi dire au centre, c'est merkazi, mais disons, le vocabulaire du Maharal est beaucoup plus précis pour cette idée, emtsai, parce qu'il y a aussi une indication morale de la catégorie de la voie moyenne, qui est la morale par excellence, la voie morale par excellence. Mais ce n'est pas une voie moyenne neutre, où les extrémités se neutralisent, c'est au contraire le lieu d'une tension de force considérable, parce qu'elle rassemble cette force des extrémités. Et l'image qui me revient à l'esprit, et qui est souvent utilisée par les commentateurs du Midrash, c'est l'impassibilité d'un arbre. Et on ne se rend pas compte de la force colossale qu'il y a dans la montée de la sève. Et alors, l'arbre est au milieu. Qui kol geshem yesh lo rechakim, parce que toute réalité matérielle a des extrémités qui s'éloignent, les limites. Mais les limites, c'est très dangereux, parce que c'est les. Et au-delà, il y a le néant. Veim tsari en lo rochak. Alors que ce qui est au milieu, le emtsai, en lo rochak, n'a pas de distance. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus cette déchirure entre le proche et le lointain. Et il n'y a plus ce lieu où se complète la pensée philosophique de ce qu'on appelle une dialectique. Et une dialectique entre deux valeurs, alors que la valeur, c'est la valeur. On s'installe entre. Et là il faudrait se taire. Attendez, je voudrais interpréter ici, introduire ici le Mishnah des Pirkei Avot. Kol yamai gadalti ben hachamim velo matzati laguf tov michtika. Vous vous rappelez de cette Mishnah des Pirkei Avot? Toute ma vie, j'ai grandi entre les sages, et là, entre les sages, je n'ai trouvé rien de mieux que de se taire. Ben Arlan. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre les sages? Il y a la controverse. Bon, je referme la parenthèse. C'est toujours désigné ainsi dans les sources. Le passage, la transition, le voyage, donc au niveau de la pensée, la dialectique, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est là que la petahata trovet, c'est là que les pièges apparaissent. Bon, alors revenons au emtsai, la sécurité du emtsai, où le loin et le près se sont rejoints. Alors il n'y a plus de rohak, il n'y a plus de distance. De distanciation. C'est-à-dire, on ne triche pas avec les valeurs du milieu. Et elles sont ou elles ne sont pas. Et vous avez toute cette agilité de la pensée philosophique que la valeur serait que ce qui est n'est pas, que ce qui n'est pas est. Bien, donc ce n'est pas gâché. Là, nous atteignons, dans notre monde de la réalité spirituelle. Elle est dans notre monde, au centre, au milieu, ainsi entendu. L'échach, et c'est pourquoi, mitiaches azmana emtsai, shen lo rohak, el bilti gashmi. Et c'est pourquoi on va mettre en relation le temps du milieu, qui n'a pas de distance, à ce qui n'est pas matériel, kemo ha Torah, comme par exemple la Torah. Et là, nous allons à relire. Chez En Shayach Ba Gashmut Klal, la Torah à laquelle on ne peut relier en aucun cas la matérialité. Là, je voudrais un peu expliquer. C'est-à-dire, ici, le terme de Torah est pris dans le sens de dévoilement de la vérité. Or, nous existons dans la réalité. Et le dévoilement de vérité ne peut s'insérer dans la réalité qu'à l'endroit de la réalité qui est préparée à le recevoir. C'est-à-dire, là où il y a exigence de la valeur, qui donne sa valeur à la réalité, mais qui n'est pas dissoute dans la réalité. C'est la différence entre... Je pourrais prendre le problème de cette manière. Nous avons un enseignement du Talmud extrêmement important. Il y a la Torah, le dévoilement de vérité, et il y a d'autre part le comportement selon la Torah. Le comportement selon la Torah, c'est-à-dire le fait d'habituer la réalité à devenir conforme à la vérité. Et il y a une option de la tradition hébraïque que c'est possible, puisque partout ailleurs, il y a eu renoncement. On va séparer, casser la vérité de la réalité et la réalité de la vérité, dualisme. Et il y a un principe du Talmud que nous pouvons relier à cette analyse, c'est l'onitnu hamitzvot lehana, les mitzvot, les commandements, c'est-à-dire les règles du comportement selon la vérité, le commandement de la Torah, n'ont pas été donnés pour la jouissance, n'ont pas été donnés pour en jouir. C'est-à-dire, n'ont pas été donnés pour s'y comporter comme jouissance de réalité. Et je voudrais ici élucider un certain vocabulaire qui est employé assez souvent dans la pensée juive contemporaine, ou dans la pensée des juifs contemporains, que la Torah serait un style de vie. Et alors là, c'est un peu ambigu. Ou bien il s'agit d'un style de vie qui a pour objectif l'authentification de la créature en tant que créature, l'acquisition du mérite d'être, et donc une visée d'emblée spirituelle, ou bien il s'agit d'un parmi les styles de vie, c'est-à-dire les codes de jouissance. Je cherche un vocabulaire plus précis. Comment dit-on en français ? Des recherettes.
Savoir vivre.
Vous voyez qu'on ne peut pas traduire. Oui, une espèce de code d'utilisation de la jouissance de vivre. C'est-à-dire une sorte d'épicurisme dans le sens noble d'ailleurs. Et il faut beaucoup se méfier de ces ambiguïtés, de ces ambivalences. C'est-à-dire que la Torah serait la règle d'un savoir-vivre, mais au niveau. Oui. Non, mais là, ça peut être ou positif ou négatif dans mon analyse. Mais au niveau des hédonismes ou des eudémonismes que l'on pourrait nous proposer, en mettant entre parenthèses le souci moral dans le sens de la tradition, c'est-à-dire avec une dimension métaphysique très importante, que la moralité c'est important parce que c'est à travers la moralité qu'on acquiert le droit d'exister. La loi morale proposée à la créature. Je crois que là nous pouvons avoir une illustration de ce que veut dire le Maharal. La différence entre se relier à la Torah en tant que vérité ou se relier à la Torah en tant qu'un des moyens possibles de jouir de la matérialité, de jouir de la vie matérielle. Bon, là il faudrait introduire une analyse de la différence entre le bonheur authentique et la jouissance. Nous avons un peu parlé de cela hier soir. Alors redonnez la formule. Les mitzvot ne sont pas donnés, l'onitnu les hana, ne sont pas donnés pour être un objet de jouissance. Et il y a non seulement droit, mais obligation à la joie, ce qui est autre chose que le plaisir. Alors là, il faudrait introduire une analyse fine de ce qu'est l'authenticité du comportement par rapport à la Torah, ou bien c'est une des manières, parmi d'autres, d'être matérialiste, c'est-à-dire, quand on mange kasher, mettre l'accent sur manger plus que sur kasher, si j'ose dire, et c'est un problème important, ou bien c'est au contraire ce que veut nous dire le Maharal, la manière d'être délivré de l'aliénation de la matière pendant tout ce temps où nous devons être dans le monde matériel, le temps de l'acquisition du mérite d'être. Et là, bien entendu, nous sommes obligés de nous référer aux études d'hier matin. C'est un peu elliptique, peut-être, pour ceux qui n'y étaient pas. Et donc, j'avance un peu. Cette formulation du Maharal ici est très importante. Il la reprend dans 1000 références. La Torah authentique n'étant rien reliée à la matière qui en est le véhicule ou le support. Au contraire, elle a pour objectif de nous délivrer de l'aliénation de la matière. Et par conséquent, trouver une jouissance dans le sens épicurien noble dans le comportement selon la Torah, c'est l'échec du projet de la Torah. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas droit et obligation à la joie, mais simcha, c'est pas hana. Est-ce que c'est clair? Peut-être que là, on pourrait accrocher le problème de l'esthétique qu'on pose très souvent. Quelle est la position du judaïsme, de la tradition vis-à-vis de l'art? Eh bien, si l'art est hana, jouissance, il peut être dangereux, il est matérialisant, dans le sens philosophique de ce terme ici, gashmi. S'il est au contraire un véhicule de joie, alors là, il est relié à la Torah. Vous comprenez la différence? Bien. Alors, on continue. Mais ça, c'est les 2000 ans de Torah. Il y a ici une indication d'une profondeur extraordinaire. Il ne fallait pas s'attendre à ce que la Torah soit révélée avant le temps qui commence par Abraham et après le temps qui se termine à Ezra. On reviendra sur ces références historiques. Parce que c'est que le temps du milieu du temps qui est matim, approprié à la révélation de la Torah. Ushne alafim yemot haMashiach. Et 2000 ans, la troisième période de 2000 ans, les jours du Mashiach, du Messie, Pirush, l'explication est, Azman Aharon, ça veut dire le temps dernier, le temps ultime. Hu meyuchad l'imot haMashiach, c'est lui qui est spécifique des temps du Messie. Ki Azman Aharon, parce que le temps de la fin, Aharon, c'est le temps dernier. Ou Ashlama, c'est le temps de la Ashlama, plénitude. Et il faudrait éviter de dire perfection. Plénitude. Parce que perfection, entendu en français, c'est-à-dire en latin, ça voudrait dire la mort, l'arrêt, la fin. Et comme on dit un peu dans le français populaire, il est fini, parfait, complètement fait, fini. Ashlama, de de plénitude, chez Kol Asher Huba Harona, parce que tout ce qui est en fin de compte est Hu Ashlama, c'est plénitude. Ulchach, et c'est pourquoi Azmana Haron, c'est le temps de la fin du temps. Et Mityaches se relie, concerne, est en relation avec Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et alors là, c'est la première fois que le Maharal dans ce chapitre employé le terme de Melech pour dire le Mashiach. Bon. Donc nous allons avoir une réflexion, une étude sur la notion de Malchut telle qu'elle est reliée à Mashiach. L'être Mashiach se trouve perpétuellement en émergence. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'il faut construire, pour reprendre le vocabulaire de Mizrahi hier soir? C'est Malchut du Mashiach, le royaume, la royauté du Mashiach. Il y a une différence entre Mashiach et Melech HaMashiach. Est-ce que c'est clair? À la fin de l'étude hier matin, on m'avait posé une question sur, je crois que ça venait par là, que ça veut dire Mashiach en hébreu. Vous vous rappelez de ça, okay? Et alors, l'être de messianité, eh bien, il émerge dès le commencement de notre histoire, dans la première partie du temps, dans la deuxième, dans la troisième, et constamment, perpétuellement, il y a être de messianité. Mais Melech HaMashiach, le temps de la royauté messianique, cela c'est à la fin. Et ça aurait pu commencer dès le commencement de la fin, c'est-à-dire dès le début de la troisième période des 2000 ans. Et vous rappelez la dernière citation d'hier matin, Va'avodotenu, cher Abou, à cause de nos fautes, et on ne sait pas encore de quelle faute il s'agit, Yatsu, Mashé, Yatsu, une quantité énorme de temps sort de... Mais en fin de compte, c'est à la fin qu'on attend. Malchut HaMashiach, le Melech HaMashiach. Le Mashiach, on peut le rencontrer n'importe quand, mais il dit pas qui il est. Mais c'est à la fin que le Melech HaMashiach se dévoile. Quand c'est au niveau d'une société. Malchut est une société. Et pas seulement d'une tendance de manière d'être homme qui serait la messianité. J'en parlerai beaucoup plus abondamment en essayant de distinguer, mais je vous le dis à l'avance pour que vous y réfléchissiez, je ne sais pas si je vais arriver avec la séance publique, entre messianisme comme croyance au Messie et la messianité comme une manière d'être homme qui consiste à être messianique et qui est la manière hébraïque. C'est un peu beaucoup ce qui nous distingue des chrétiens. Les chrétiens croient au Messie. Israël est messianique. Et j'emploierai donc plutôt ce terme de messianité pour dire la manière d'être et messianisme pour dire la croyance à. Alors c'est pas par hasard que les chrétiens sont condamnés, si j'ose dire, entre guillemets, et à croire à un juif, à une figure de juif. Et ils seront pas damnés pour ça. Bon. Alors je reviens à la lecture. C'est la première fois donc dans cette phrase, dans cette ligne, que le mot de Melech HaMashiach apparaît. Et En Melech Beloham, ça veut dire, dès que la notion de Malchut apparaît, il s'agit d'une société, et pas seulement de l'identité de messianité, qui elle, traverse tout le temps. Vous retrouverez là les sources qui disent que, à chaque génération, ils sont tous là, les grands personnages de la révélation. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron et le Mashiach, ils sont tous là. À la hauteur, au niveau de mérite de la génération en question. Et occulté, caché. Ça fonctionne, donc ils sont là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Melech Mashiach, le roi Mashiach, c'est-à-dire lorsque la société est messianique, et pas seulement l'individualité de cette manière d'être homme qui s'appelle l'hébreu, qui en tant qu'hébreu est messianique, est messianique, si vous voulez, alors ça c'est à la fin. Et si on mérite plus vite, c'est plus vite, Bimera Beyamenu. Et si on ne mérite pas, ça arrive quand même à la fin. Et comme nous sommes à la fin, 5742, c'est pas très loin de la fin de 6000. Okay? Et comme vous savez, on commence Shabbat un peu avant. Erev Shabbat. Alors on y est. Seulement on ne veut pas le voir. Alors, qui a Melech HaMashiach? Car le roi Mashiach, Yé Mashlim, c'est lui qui doit réaliser cette plénitude, accomplissement, et kol ha'olam, du monde tout entier. Dès que la notion de Melech apparaît avec Mashiach, alors il s'agit d'universel. Il s'agit de la société. Oui, voyez en quoi c'est très différent que le mécanisme chrétien. Kacheriye kol haolam echad. Quand le monde entier, tout le monde, sera echad, c'est-à-dire rattaché à une unité. Alors, je ne vous ai pas cité les protocoles des sages de Sion. Okay? C'est-à-dire, aura pour symbole le Magen David et pas la croix. Vous voyez dans quelle perspective va cette notion d'unité. Vous avez compris? Ad shiyye olam beshlemut. Unité telle, pas n'importe quelle unité. Unité qui ferait que, et qui fera que, et le monde sera dans sa plénitude. C'est-à-dire que le projet du Créateur aura fini par être engendré. Je crois que, à travers le Maharal et grâce au Maharal, nous revenons donc à Judas Lévi, qui est son maître dans le temps, et à cette notion très importante des engendrements. C'est-à-dire tous ces 6 000 ans, c'est tout le temps d'une vie embryonnaire, où un projet d'engendrement se cherche, et en fin de compte, il naîtra le divin enfant. Mais ce n'était pas ce qu'on croyait. C'était le monde correspondant enfin au projet du Créateur, et pas une idole. C'est clair ? Fut-elle juive d'apparence. Et c'est pourquoi Raoui Sheyeh Melech HaMashiach, il est donc normal, convenable, Raoui, il faudrait un mot plus précis, Raoui, c'est, ça va de soi, quel souhaitable, non, préférable, pas préférable, Raoui, un peu comme Matine, Raoui, ouais. Mais pas convenable dans le sens esthétique, éthique, mais oui, dans le sens logique. Okay? Melech HaMashiach, Shehu HaMashlim, qui est celui qui donne le couronnement, la plénitude, mais sauf Azman, qui n'apparaisse qu'à la fin des temps. Et vous voyez, et j'aurais à y revenir ce soir, un Messie qui apparaît au début, sans qu'on l'ait mérité, okay? C'est suspect. Le vrai Messie vient à la fin. C'est clair? Alors, on va nous dire, j'en parlerai ce soir, on va nous dire qu'il revient. Mais un Messie qui revient et un Messie qui vient, c'est pas exactement la même chose. Vous avez compris? Ça veut dire que ça ressemble pas. Et je vais vous expliquer ces termes de la ressemblance en hébreu du Talmud pour que vous compreniez bien de quel point c'est important. Quand on dit en Talmud, dans l'hébreu du Talmud, ça ressemble, domé, ça ressemble, ça veut dire que c'est pas la même chose. Et quand on dit énodomé, ça ressemble pas, ça veut dire même ressembler, ça ressemble pas. Vous comprenez la différence? Afinudomé, énodomé. Et alors, il faut bien prendre garde au piège du vocabulaire en français. C'est le problème de la parousie dans les catégories théologiques. Dire, bon, après tout, finalement, on attend la même chose, seulement ça a été décalé, différé, et c'est votre faute. La faute des Juifs. Que les uns attendent un Messie qui revient, les autres attendent un Messie qui vient, mais c'est tellement la même chose. D'après, ça n'a rien à voir. Ça renvoie à une conception du temps radicalement différente, et surtout à une conception de la relation entre la vérité et la réalité radicalement différente. C'est suffisamment clair. Bon, dites-moi, Messie, oui. Mais oui. Alors, bon, on revient au problème. Parce que alors, et alors seulement, il y a cas de plénitude. Beyoter, le plus, vraiment. Vedabarze me voir, et ça c'est clair, dit le Maharal. Beodit vaer dabarze. Alors si c'est clair, pourquoi il faut encore l'éclairer? Je crois que quand le Maharal écrivait cela, il devait sourire dans sa barbe.
Dur à concevoir.
Non, il dit ça avec un sourire vraiment de grand-père. C'est pas du tout dur à concevoir. Il faut avoir le courage de voir ce qu'on voit. C'est une question de courage, c'est pas dur. D'option, comme avait dit Eva hier, c'est une manière d'être qui consiste à accepter cette chose extraordinaire. Eh bien oui, j'ai été créé, alors le bon Dieu sait pourquoi, donc ça a un sens, eh bien, ça va très bien, ça ira bien. Vous voyez, c'est plus que l'optimisme. J'aurais surtout à expliquer ça ce soir. C'est la foi, c'est beaucoup plus que l'optimisme. Hein? Oui. Si j'ose dire, il faut être au parfum. Absolument pas. Ça passe par... Absolument. C'est-à-dire, il faut aussi comprendre. Surtout quand on se parle, il faut parler clairement, il faut savoir comment exposer. Mais c'est une expérience de vie. C'est une option de vie. C'est de l'ordre de la vertu dans le sens fondamental. Et il n'y a rien de plus néfaste que de transformer l'enseignement de la Torah, surtout au niveau de la messianité, à un niveau...